Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast aux multiples talents. C'est encore et toujours Romane et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, ma foi, je dirais assez personnel, puisque c'est une story time que je vais vous partager sur les troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement l'hyperphagie. Ok, j'espère que vous allez tous bien, que votre fin de semaine se passe très bien. Je tourne un vendredi personnellement, donc le week-end, et assez tard puisqu'il est 22h09, mais je préfère tourner un podcast le ventre plein. Je pense que j'aurai les idées plus claires malgré la fatigue, car aujourd'hui aussi j'ai eu une sacrée journée. Mais passons. Aujourd'hui, on va parler de l'hyperphagie. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet? Tout simplement parce que je l'ai vécu, parce que c'est une maladie, un trouble du comportement alimentaire qui est en vérité peu connu et que je pense que c'est intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne, les mécanismes, etc. Donc voilà. Petit disclaimer, parce que c'est important de le préciser, voilà, je ne suis pas une professionnelle de santé. Vous commencez à avoir l'habitude de mes bugs, de mes bugs tout simplement. Donc, je ne suis pas une professionnelle de santé. Dans ce podcast, je vais uniquement parler de mon parcours, de mon vécu, de ce que j'ai fait pour m'en sortir, entre guillemets, si je peux utiliser ces termes, etc. Donc, à ne pas prendre au pied de la lettre, voilà, je ne suis pas diplômée pour parler spécifiquement de cette maladie. Mais par contre, je pense que j'ai assez vécu pour pouvoir parler de moi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous le savez, j'ai tourné un podcast sur l'hypersensibilité. C'était mon premier podcast après ma présentation et c'est vrai que j'ai eu des retours dessus, donc des retours de ma famille, de mes amis. C'est vrai que je ne voulais pas aborder le sujet comme ça, en fait. Je l'ai abordé d'une manière un peu trop pédagogue et je n'ai pas réellement envie de ça. Je veux peut-être plus en parler, pareil sur mon vécu, sur comment moi, je vis le fait de me sentir hypersensible, etc. Donc, je vais peut-être refaire un podcast sur ça. Et puis parler plus de moi et potentiellement supprimer l'ancien parce que c'est vrai que je suis pas déçue de ce que j'ai fait, hein, mais c'est vrai que j'ai peur que voilà, on puisse avoir une mauvaise image de ce que j'ai dit, peut-être parce que j'ai été trop maladroite ou certaines choses. J'ai pas envie de vexer des gens, donc je préfère, au lieu de parler du sujet en général, de parler de moi, parce qu'au moins ça me concerne moi et ça met personne d'autre dans le lot, quoi. Voilà. Bon, ben, on va passer tout de suite à qu'est-ce que l'hyperphagie? Alors, qu'est-ce que l'hyperphagie? L'hyperphagie, donc, c'est un trouble du comportement alimentaire qu'on appelle aussi hyperphagie boulimique. Et c'est une TCA, donc je vais dire TCA pour trouble du comportement alimentaire, c'est beaucoup plus rapide et vous savez que je bug, donc ce sera plus simple pour moi aussi. Donc c'est une TCA qui amène à une surconsommation d'aliments. Donc une surconsommation d'aliments, c'est pas spécialement un besoin métabolique ou énergétique. On n'a pas besoin en fait de cette surconsommation d'aliments. C'est uniquement par entre guillemets détresse psychologique. Et il faut savoir que par cette surconsommation d'aliments, évidemment, il y a une relation qui est intime. C'est-à-dire qu'il est intimement lié, mais je ne sais pas trop si ça se dit. En tout cas, qui est très intime avec l'obésité. Parce que bah, forcément, la surconsommation alimentaire, comme je vous l'expliquais après, quand je vous raconterai un peu mon histoire, évidemment, on ne va pas faire des crises d'hyperphagie sur des carottes, des tomates et de la salade. Ce serait juste génial, mais ce n'est pas le cas. Donc forcément, ça entraîne une prise de poids plus ou moins importante en fonction des crises et de la personne, du métabolisme aussi. Et donc forcément, ben voilà, ça amène à une potentielle, voire dans la grande majorité, une obésité dans tous les cas. Les causes de l'hyperphagie, en vérité, les causes, elles sont principalement psychologiques. En général, c'est occasionné par une sorte de dérèglement psychologique ou une atteinte affective. Donc en gros, une sorte de trauma par lequel en fait on va le résoudre en fait par l'hyperphagie, tout simplement, par la compensation, par la nourriture. Et donc les personnes qui sont forcément le plus atteintes, de toute façon, par les TCA en général, c'est des personnes qui ont des atteintes psychologiques. Donc, je vais pas parler pour les autres maladies, mais en tout cas pour l'hyperphagie, c'est pas spécialement vis-à-vis de son corps, c'est plus vis-à-vis du trauma ou de ce qu'on a pu vivre ou tout simplement de notre comportement. Parce que moi, je sais que de base, par exemple, j'ai un caractère surtout hyper anxieux. Je suis une personne très très anxieuse. Je stresse pour un rien. Les personnes touchées par l'hyperphagie, alors tout le monde peut être touché par l'hyperphagie en général. Il n'y a personne qui a plus une grande possibilité de tomber dans l'hyperphagie qu'une autre. Absolument pas. Mais on voit quand même qu'il y a une différence entre hommes et femmes au niveau de la population générale en fait en Europe. On voit que les chiffres amènent plus à une hyperphagie donc féminine, c'est-à-dire qu'il y a 1,9% des femmes qui sont hyperphagiques contre 0,3% des hommes. Maintenant, est-ce que les statistiques sont bonnes? Parce que est-ce qu'un homme va assumer d'être hyperphagique? Je sais pas. C'est une autre question, hein. Vous savez, les hormones, la testostérone. Donc, voilà, en général, ce sont, d'après les chiffres, plus les femmes qui sont atteintes. Et ça ne vaut que pour l'Europe. Je sais pas si. Parce que je viens de penser aux États-Unis, mais en vrai, est-ce que réellement c'est une question d'hyperphagie aux États-Unis ou est-ce que c'est une question de malbouffe? Là, la question est divergente, quoi. Il y a évidemment des complications hein, qui sont dues à l'hyperphagie. Donc, forcément, on va retrouver l'obésité. Évidemment, on vient d'en parler. Il y a aussi le diabète de type 2, le cholestérol, l'hypertension artérielle, les cancers. Et en fait, c'est clairement tout ce qu'une personne en surpoids ou obèse risque comme maladie, puisque, comme je disais plus haut, c'est intimement liés les deux. C'était évident. Mais du coup, comment est-ce qu'on vit cette maladie? Comment on la ressent? Comment est-ce qu'on a ce déclic de OK, je suis malade? Et comment la soigner aussi? Ça, c'est une question que je m'étais beaucoup posée. Comment est-ce qu'on soigne cette maladie? Écoute, je vais te raconter comment j'ai fait et comment moi j'ai vécu tout ça. Et comment j'ai géré les choses. Donc pour moi, l'histoire commence assez petite. En fait, avant l'âge de 7 ou 8 ans, j'étais une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal, très énergique, en pleine forme, à tel point qu'on m'appelait Forrest Gump. Je courais partout, j'étais vraiment une enfant dynamique. Et pourquoi j'avais deux grandes sœurs qui voulaient pas spécialement jouer avec moi? Et du coup, voilà, j'avais beaucoup d'énergie à revendre étant petite. Et puis, moi, l'histoire avec l'hyperphagie, elle a vraiment commencé à l'âge de 7-8 ans. Parce que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. C'est aussi la période où j'ai une de mes sœurs, la moyenne, qui est partie de la maison, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes que moi. On a 10 et 13 ans d'écart. Et donc du coup, celle avec qui j'ai 10 ans, donc la moyenne, est partie de la maison. Et c'est vrai que ça a fait un chamboulement parce que pour moi, c'était quelqu'un qui m'abandonnait en quelque sorte. Hein. Je l'avais vécu comme ça étant petite. Et puis j'ai commencé à développer aussi tout ce qui était crise d'angoisse, peur de l'abandon, etc. Donc en fait, ça a été une période assez compliquée pour moi étant petite. Maintenant, adulte, voilà, je me rends compte de ce que j'ai pu vivre étant petite. Je ne m'en rendais pas spécialement compte. Et donc, ma sœur est partie et donc j'ai commencé à prendre pas mal de poids. Je fouillais pas mal dans le frigo, j'allais souvent mettre ma tête dedans, j'allais souvent voir ma mère en lui disant « Maman, j'ai faim !» Alors que j'avais pas du tout faim, c'était faux, je voulais juste manger. Mais voilà, petit à petit, j'ai commencé à prendre du poids. À l'école, ça m'a pas spécialement dérangée. À l'école, voilà, c'est l'école, quoi. Ça va, c'est tranquille. Et puis, j'avais pas spécialement de comportement douteux, à part peut-être le fait que J'allais piquer des sous dans le porte-monnaie de ma mère. Pardon maman, si t'écoutes ce podcast, je sais qu'elle écoute mes podcasts. Pardon maman, je sais que tu ne sais pas, je te l'ai jamais dit. Mais j'ai volé quelques pièces et en fait, en face de mon école, il y avait une boulangerie et j'allais acheter des bonbons là-bas. Je pense pas que ce soit réellement. Je pense que on est beaucoup à avoir fait ça ou du moins à avoir été acheter des bonbons à la boulangerie. Ça fait pas nous des hyperphagiques, mais c'est vrai que. Que je me rappelle juste de ça réellement en mode comportement un peu. Voilà, parce que à l'époque ça coûtait pas très cher et du coup bah, c'était plutôt cool. On en avait plein pour 2 €, donc on en profitait. Pardon, excusez-moi. C'est pendant la préadolescence en fait, mes 11-12 ans, que vraiment ça a commencé à devenir un peu plus compliqué. Déjà parce que le collège c'est une épreuve assez difficile à passer. En plus, je venais de déménager donc je connaissais personne, j'avais pas d'amis. Donc c'était assez compliqué pour moi et puis vous connaissez le collège, les gens sont méchants, les gens sont très méchants au collège, voilà, j'étais la grosse vache de la classe et puis voilà, donc je pense que ça n'a pas aidé aussi ce petit harcèlement que j'ai eu vis-à-vis de mon poids et de mon corps et c'est là où j'ai commencé à développer un peu des comportements assez... Je dirais pas grave, mais assez bizarre quand même pour une enfant d'11-12 ans, quoi. J'allais principalement, vraiment quand j'avais des crises, enfin quand j'avais des crises à l'époque, je savais pas ce que c'était des crises. Mais ma mère, en fait, pour vous expliquer, a toujours été non au soda, non au gâteau, machin. Et ce qui est pas plus mal, parce qu'au final, avec ma mère, j'ai jamais eu une mauvaise alimentation. Mais c'est vrai que du coup, bah, il y avait jamais ça à la maison. Et en fait, vers cette période-là, ma mère, elle faisait souvent, d'ailleurs, ce qui m'étonnait, des madeleines, elle achetait du jus d'orange, des trucs que jamais j'avais à la maison. Mais c'est vrai que j'avais tendance à en manger vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en sachant que bah, j'en mangeais, enfin, qu'avant, j'en avais pas spécialement, on peut se dire, bon, bah, c'est normal, elle en profite, sa mère fait des trucs super bons, bah, vas-y, elle va manger. Et puis bon, elle va un peu forcer parce que voilà, c'est une enfant et que. Et que les enfants, ça aime manger. Mais quand vraiment, il n'y avait rien à manger, que j'avais ni les madeleines, ni le jus d'orange, ni absolument rien, et que j'allais dans le placard pour manger des pâtes crues, là, on peut se poser des questions, là, on peut se dire, ok, il y a un souci. Ok, ça, c'est pas un comportement normal. Bon, ma mère l'a jamais su, hein, je ne suis jamais allée voir ma mère en lui disant, maman, j'ai bouffé des pâtes crues. Je pense qu'elle aurait dit, oula, il y a un souci. Donc, elle n'a jamais su. Donc, elle va l'apprendre très certainement en écoutant ce podcast. Bonjour, maman. La pauvre va découvrir des choses incroyables sur moi. Donc, voilà. Donc, je mangeais des pâtes crues des fois pendant certaines de mes crises parce que bah, il fallait que je mange quelque chose et que je n'avais rien d'autre à manger à part des pâtes crues. Ou il fallait que je me fasse à manger. Sauf qu'à 11-12 ans, bah, tu sais pas spécialement te faire à manger. Et ta mère va trouver ça bizarre si tu commences à te mettre de l'eau dans une casserole et à te faire des pâtes toute seule. Elle va se dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, moi, ma mère, entre les repas, enfin, non, je me faisais pas à manger toute seule ou quoi que ce soit. Du moins, j'ai jamais été élevée comme ça. Et donc voilà, donc c'est là où vraiment j'ai commencé à avoir des crises. Et puis après, bon bah le collège fait que, les critiques ont fait que, j'ai décidé de perdre du poids et j'ai perdu 10, 11, 12 kilos peut-être, dans les 10 kilos en tout cas. Et j'étais devenue toute mince, toute fraîche et tout. Ah là là, tous les garçons étaient sur mon dos, tout ça. Donc forcément, à cette période, ça allait beaucoup mieux parce que j'étais fraîche, parce que j'avais plus de harcèlement à l'école, parce que voilà, j'étais une meuf popue, tout ça. Donc pendant cette période-là, c'est vrai que j'ai pas eu de crise et j'ai pas l'impression d'en avoir re-eu jusqu'à ce que je déménage encore une fois, parce qu'on a beaucoup déménagé avec mes parents, et qu'on déménage ben, là où je suis maintenant, c'est-à-dire à Bordeaux. Et donc... On a déménagé et là les crises ont recommencé. Du moins, c'est les souvenirs que j'ai, hein, parce que je pense pas que j'ai un souvenir de chacune de mes crises. Disons que ce serait un peu compliqué. Donc, j'arrive, je redouble ma troisième, parce qu'évidemment, scolairement parlant, je n'étais pas du tout assidue, on va dire. Donc, je redouble ma troisième, tout se passe très bien, nouveau collège, nouvelle copine, nouveau machin. Et de très bonnes notes, franchement, tout se passe super bien, vraiment nickel, vraiment très très bien. Et puis, ben, je sais pas, le stress, le fait d'être hyper anxieuse, puisque bon, j'ai toujours été anxieuse hein, depuis petite, l'eczéma, les otites, les crises d'angoisse, tout ça. Tout ça, c'était mon quotidien. Et donc, à cette période-là, je me souviens, c'est par phase, je pense, mais c'est vrai que mes parents achetaient une mayonnaise super bonne, la Benedicta. Benedicta. La Benedicta, comme à la maison. Et avec un pain de fou, parce que notre boulangerie, elle faisait du pain de fou. Et donc, en fait, je rentrais des cours, et quasiment chaque soir après les cours, je m'enfilais du pain avec de la mayo. Mais vraiment, genre, je prenais un bout de pain, je le fourrais dans le pot, je le mangeais. Et je pouvais manger une demi-baguette, voire les trois quarts de la baguette, easy. Et encore, c'est parce que ma mère me disait, mais Romane, arrête de faire ça, tu vas prendre du poids. Et j'étais là, oui, mais c'est bon. Ma mère a pas vu de mal, encore une fois. Et là, par contre, je trouve ça un peu bizarre qu'elle se soit pas dit, bah, c'est bizarre que, enfin, genre, pourquoi elle fait ça, quoi, tu vois? Et je pense qu'elle devait se poser des questions, mais elle m'en a jamais parlé, ou du moins, j'ai pas le souvenir. Et puis, ben, au final. Je faisais ça. Je faisais ça quasiment tous les soirs en rentrant, machin. Et puis entre le fait que je mangeais bien quand même à table, j'avais un bon appétit, j'avais souvent tendance à aller au-dessus de ma satiété. Et au bout d'un moment, je la ressentais même plus la satiété parce que bah, mon corps s'est habitué. Mais cette période-là, j'ai pris pas mal de poids en vrai. Ça a été le début d'une longue prise de poids. Donc, le lycée arrive. Le lycée aussi, super. J'ai passé les 3 meilleures années de ma vie. Franchement, c'était top. Mais c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Je voyais mes copines, toutes minces, toutes belles. Quand je mangeais, elles ne mangeaient pas comme moi. Quand je buvais, elles ne buvaient pas comme moi. J'avais ma super copine que j'aime de tout mon cœur, Margot, qui mangeait. Elle avait un petit appétit d'oiseau, tu vois. En quoi que des fois, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Mais en général, elle mangeait très peu. C'était pas une grosse mangeuse, Margot et tout. Et je la voyais, je me disais, mais c'est pas normal. Pourquoi moi, j'ai besoin de. Pourquoi moi, je ressens ce besoin de manger tout le temps? Enfin, pourquoi? Et je me comparais beaucoup parce que bah, c'est une période où bah, voilà, les garçons, les ci, les ça. Et puis au final, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi moi je suis pas mince comme elle, pourquoi ci, pourquoi ça? Et au final, ça engendrait beaucoup de stress pour moi. Et donc, du coup, bah, je remangeais. Bon, bah voilà, c'était un cercle vicieux et c'était voilà, c'était un truc que j'avais limite accepté. C'était une normalité pour moi, alors que c'était pas censé l'être, pas du tout. Et vers la fin du lycée, j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre quand même. Enfin, genre, des fois, je ressens des envies de manger alors que j'ai pas faim. C'est bizarre. Et j'ai cette pulsion, il faut que je mange. Genre, c'est pas en mode j'ai envie de manger parce que bon, j'ai envie de. Je sais pas, j'ai envie d'M&M's, donc je vais me chercher 2-3 M&M's et je vais les manger. Non, c'est. J'ai besoin de manger. Donc, je serais capable de me faire 4-5 repas dans la même journée parce que j'ai besoin de manger. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi que je fais? C'est boulimique? Il y a un souci? Là, je commençais à réaliser un peu le délire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis boulimique. Mais une boulimique, je regardais définition, mais il y a forcément un moyen de. D'éjection, on va dire, de ce qu'on a mangé, donc soit par le fait de vomir, soit par des laxatifs ou des choses comme ça. Moi, j'avais aucune envie de me faire vomir, je déteste ça, et encore moins de prendre des laxatifs. Enfin, à la limite, à la fin, je culpabilisais, je me disais, bon, demain, je commence un régime que je ne commençais jamais, puisque les crises revenaient dans tous les cas, et que j'avais aucune foi de faire un régime. Mais c'était tout, je partais pas me faire vomir ou quoi que ce soit. Donc, bizarre. Mais bon, au final, je me dis, bon, c'est peut-être ça. Mais je me casse pas trop la tête. C'est-à-dire, j'y pense pas trop. C'est un truc qui m'embête, donc j'y pense pas trop. Et puis arrive la fin du lycée, les études qui me plaisent pas, la vie active, le stress, les crises d'angoisse, tout ça. Un état psychologique assez faible, on va dire. Ça a été une période assez compliquée pour moi, l'après-lycée, les quelques années après le lycée, ça a été compliqué. Mais bon. Au final, la seule chose que ça m'a amené, c'est des crises, des crises, des crises et des crises. Et puis, on travaille, on gagne de l'argent, c'est plus papa et maman qui décident de quand on mange. Donc, tu vas t'acheter des sacs entiers quand t'es en crise, au petit Leclerc à côté de chez toi, et tu rentres chez toi, tu caches tout ça sous ta couette, et tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Tu manges, t'as plus faim, t'as mal au ventre, mais tu continues à manger, tu continues à manger, tu continues à manger, tu culpabilises, mais tu te dis c'est pas grave, demain je fais un régime et tu continues à manger. Et ça a été pendant des années, des années, des années, pendant peut-être 2, 3 ans, c'était des crises. Et là, ma prise de poids, ah, qu'est-ce que j'ai pu prendre comme poids? C'était atroce. J'ai dû prendre, sans mentir, 20 kilos. bon. Disons que pareil, ben, je me disais, j'arrive pas à me contrôler. Donc je le faisais. Et puis un soir, je regardais les réseaux, j'étais sur Instagram et je vois un. Pas un reel, si c'était peut-être un reel, ou une vidéo, quelque chose comme ça, je crois pas qu'il y avait les reels à l'époque. Je vois une vidéo d'une fille qui explique que, bah voilà, elle a atteint d'hyperphagie, et elle explique bah, ses symptômes, ce qui se passe, etc. Et je regarde la vidéo et je suis bouche bée. Vraiment, je mais c'est pas possible, c'est moi, elle parle de moi. Et donc je comprends qu'en fait, je suis atteinte d'hyperphagie. Alors, je vais me renseigner pour être sûre. Bon, sait-on jamais. Je regarde les définitions. Déjà, il y a très peu de choses parce qu'en vérité, c'était très, très peu connu. Et ça l'est toujours un peu, d'ailleurs. Mais je regarde, je me renseigne et je me rends compte que oui, c'est ce que j'ai, quoi. Ça me définit totalement. Donc, j'ai peur un peu. Tu sais, t'es entre le « je suis choquée » parce que, en fait, tous ces comportements compulsifs que j'avais avant, ils étaient absolument pas normaux. Alors que je les normalisais. Et en même temps, j'étais contente parce que je me suis dit, ok, j'ai trouvé la source du problème. Et ça me fait plaisir. Parce que si j'ai la source du problème, je peux régler le problème. Donc je me remets en question. Et là, j'ai un reset de toute ma vie, de tous les comportements que j'ai pu avoir. Et là, je me dis, mais c'est dingue. En fait, il y avait tellement de signes avant-coureurs, tellement de signes alarmants que j'aurais dû me rendre compte plus tôt. Bon, il s'avère que non. Mais c'est pas grave. Au final, je m'en suis rendu compte à un âge où tu comprends les choses et où tu peux te permettre de faire des introspections et te remettre en question. Et ça, c'est bien. Et donc, à chaque fois qu'après cette découverte, à chaque fois que je faisais une crise, j'avais cette compréhension de la crise. Parce qu'avant, quand j'avais des crises, c'était souvent « Oh, tu sais, tu trouves des excuses. Oh, mais c'est parce que j'ai mes règles. Oh, du coup, vas-y, je vais aller m'acheter plein de trucs à manger et je vais manger dans mon lit. » Dit comme ça va, tu vois, tu te dis « Bon, c'est à la limite, soit. » Et puis, t'en as une autre qui est en dehors de tes règles. Tu dis « Oh, j'ai passé une mauvaise journée. Vas-y, j'ai envie de me poser et de manger. » Voilà. Ou tout simplement, même des fois, je passais des bons moments, bah, j'avais quand même envie de manger. Tu vois, c'était mes émotions. Voilà, j'engouffrais mes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les engouffrais. Et là, bah, quand je faisais une crise, je comprenais que c'était l'hyperphagie et c'était pas normal. Donc, tu as ce petit pincement au cœur de te dire, ok, je cède à ma crise parce que j'arrive pas à ne pas céder à ma crise. C'est-à-dire que quand tu as cette pulsion, tu vas y penser. J'ai essayé hein, des fois de ne pas céder, de ne pas craquer, mais tu as cette. En fait, ça sort pas de ta tête. C'est-à-dire que ça ne sort pas de ta tête. T'y penses, t'y penses, t'y penses, t'y penses. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et là, tu te dis, non, c'est bon, j'en ai marre, faut que je le fasse, je le fais. C'est comme si, pour les fumeurs qui me suivent, ou les gens qui, je sais pas, ouais, les fumeurs, je pense, parce qu'en vrai, c'est un bon exemple, ils ont envie d'une cigarette, mais ils essayent de s'en empêcher. Tu vois? Ça reste dans ta tête, ça reste dans ta tête. Et ça ne s'arrête pas. Et à un moment donné, tu vas craquer. Ben, moi, c'était la même chose. C'était compulsif, vraiment, c'était violent. Et donc je cédais parce que je savais très bien que j'arriverais pas à tenir, je n'arriverais pas à passer au-dessus de cette crise, c'était pas possible. Ni aucune d'ailleurs, aucune des crises. Et puis j'en ai eu ras-le-bol un jour. Un jour j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, je prends du poids, j'arrive pas à prendre soin de moi et de mon corps parce que je fais des crises. Et tu sais, quand t'es en crise, tu te dis ça sert à rien que je fasse du sport, ça sert à rien que je fasse un régime puisque de toute façon je vais refaire une crise et puis ça va tout gâcher et puis de toute façon machin. Et puis en fait, tu te mets plus bactère et c'est assez compliqué. Mais bon, à un moment donné, t'en as marre et tu cherches des solutions. Je regarde sur Internet comment est-ce qu'on peut se soigner, etc. Et je vois beaucoup de gens qui mettent que, bah, en fait, on peut se soigner soi-même en essayant de réguler ses crises, de ci, de ça. Mais moi, j'avais pas envie de ça parce que j'avais envie de quelque chose qui soit radical. Je ne voulais plus de ça dans ma vie. Ça me détruisait et psychologiquement et physiquement. J'en pouvais plus. Et ma sœur Julia, donc celle du milieu, toujours. Me parle qu'elle a été voir un hypnothérapeute, enfin une hypnothérapeute, c'était une femme, et que elle a réglé quelques petits problèmes, etc. Et qu'aujourd'hui ça va super super et que voilà, elle se sent mieux. Et puis même moi, je le voyais, elle se sentait mieux, elle pétait la forme, elle était vraiment. J'étais choquée, je dis, mais ouais, non, mais franchement. Et donc, elle m'expliquait comment ça fonctionnait, etc. Et je me suis dit, bah écoute, moi aussi, je vais essayer. J'avais pas mal de soucis que je voulais régler, dont l'hyperphagie. Donc, je me mets à regarder les hypnothérapeutes. Je regarde les tarifs, parce que j'avais pas non plus des milliers de cents, j'étais pas très riche. Et donc, je regarde. Et puis, c'est cher, un hypnothérapeute. Une séance, 80 euros. Tu te dis, oulala, mais attends, j'ai pas les moyens de mettre 80 euros toutes les semaines. Enfin, voilà. C'est compliqué de lâcher 160 euros, voire même plus sur un mois, quoi. C'est assez compliqué. Puis, en plus, à l'époque, je fumais. Bon, maintenant, je fume plus, mais à l'époque, je fumais. Donc, en plus de ça, je dis, attends, mais enfin, vraiment, zéro sou, je veux plus vivre. Et je tombe sur, comme par hasard, hein, vraiment, c'est pour moi, ça a été un signe, mais un signe. Et d'une force. Je suis allée, donc j'ai cherché sur internet et je tombe sur un monsieur avec une page internet, un site internet avec des explications, etc. Machin. Et je vois, il parle et franchement, la manière dont il parle et tout, je me dis, waouh, mais ce mec a l'air super et tout. Et je décide de l'appeler. Je décide de l'appeler parce que, bah parce qu'il m'a convaincue sur son site, quoi. Et vraiment, il faisait passer ça pour quelque chose de super, quelque chose que, bah voilà, c'est un travail sur toi, c'est. Enfin, je ne pourrais plus vous ressortir la page, hein, mais franchement, il m'avait vraiment. J'étais en mode, ouais, c'est cool, j'ai envie d'essayer, quoi. Donc, je l'appelle, le mec au téléphone, il est super gentil, il me dit oui, alors. Vraiment comme si c'était mon pote depuis 10 ans. Et donc, je vois que ces séances, elles sont à 60 euros. Je me dis, ok, 60 euros, déjà, c'est plus raisonnable, etc. Je peux me le permettre, c'est cool. Let's go, quoi. Je veux essayer, je veux au moins essayer. Donc arrive l'heure de la première séance et puis on est toujours un peu dubitatif avant de faire de l'hypnose. Ouais, il y a des gens qui y croient pas, il y a des gens qui se disent est-ce que ça va marcher sur moi? Est-ce que je suis réceptif? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon, moi je savais qu'on était tous réceptifs puisque de toute façon on fait tous de l'hypnose soi-même. On est tous à un moment donné dans notre journée en état d'hypnose, ne serait-ce que quand on bug, on est dans un état d'hypnose. On s'en rend pas compte, mais c'est ça. Donc ça, je le savais un peu. Donc j'en ai discuté avec lui. On a fait une première séance d'essai, etc. Ça s'est bien passé. J'avais pas l'impression que c'était une dinguerie, la première séance. Bon, c'est pas grave, tout ça. Deuxième séance, j'arrive, je lui dis, ok, je veux travailler sur les crises d'angoisse. Ça me pourrissait la vie et j'en pouvais plus. Donc je lui dis, voilà, je veux que ça sorte. Et là, mais alors là, cette séance, ça a été ma révélation. Je me suis dit, ok, l'hypnose, c'est fait pour moi. C'est-à-dire que en une séance, j'ai réglé les problèmes de crise d'angoisse. J'en ai plus jamais refait depuis. Je croise les doigts. Je veux plus jamais en refaire. Ça fonctionne très bien, c'est génial. Et voilà. Et moi, ça a vraiment changé ma vie. Parce que les crises d'angoisse, c'était vraiment quelque chose qui me pourrissait. Et donc, du coup, je dis, ok, bah, si ça marche sur les crises d'angoisse, je vais essayer avec l'hyperphagie. Peut-être que ça va m'aider. Peut-être que. Alors, je me suis dit, c'est incroyable si j'ai plus de crise d'hyperphagie. Mais alors là, je crois que je pleure. Je pleure toute ma vie. Je pleure de joie. Et donc, je lui en parle. Donc, je lui explique, etc. Il me dit, j'ai jamais fait sur les TCA, etc. J'ai jamais pratiqué là-dessus. Il me dit, mais écoute, pourquoi pas? Viens, on teste, on essaye, et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est toi qui vas faire 90% du travail. Parce qu'en fait, c'est toi qui travailles sur toi-même en hypnose. C'est pas lui qui va te dire, bouh, arrête de stresser, arrête de faire des crises, et ça y est, bim. Non. Il va t'amener dans ton hypnose à régler tes problèmes avec toi-même. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, on fait une première séance. Déjà, il se passe des dingueries pendant cette séance. Il fait parler mes mains alors que c'est l'hyperphagie. Enfin, vraiment, c'est un délire. Il faudrait vraiment que je vous fasse un épisode sur les séances d'hypnothérapie parce que c'était vraiment un délire. Autant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que l'état d'hypnose, il est incroyable. Et tu te sens tellement bien que à chaque fois que je rentrais dans son petit cabinet, là, j'étais à deux doigts de tomber en hypnose. À peine j'étais assise. C'était dingue. Des fois, il me parlait, il me claquait devant les yeux, il me disait, oh Roman, tombe en hypnose là, oh, je te parle, pas encore, après. C'était une dinguerie, je kiffe, c'était génial. Et donc, une séance, deux séances. Et au bout de deux séances, je me mets en accord avec moi-même, parce qu'on a fait une première séance, ça n'a pas marché. Il y a un côté de moi qui voulait absolument pas régler les problèmes d'hyperphagie, machin. Puis après, bon, tu passes une semaine, deux semaines sans. Pour faire un peu d'introspection, réfléchir sur toi-même, prendre un peu du recul. Et puis tu te rends compte qu'en fait, l'hyperphagie, ça t'a sauvé la vie plus d'une fois, quoi. Parce qu'au lieu de faire des dingueries, tomber dans des dépressions, des choses comme ça, ou de céder à une anxiété incroyable, bah, la nourriture, ça m'a aidé, cette hyperphagie-là, ça m'a aidé. Et au lieu d'avoir de la haine contre cette hyperphagie, en fait, j'ai commencé à l'accepter et avoir un peu de peine pour elle. Et j'ai même hésité à me dire, bah, est-ce que réellement j'ai envie que ça parte? Parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et comment je vais faire sans? Bon, spoil, ça a marché. J'ai décidé de l'enlever. Mais voilà, non sans peine, quoi. Parce que la deuxième séance, du fait que j'ai accepté l'hyperphagie comme quelque chose qui m'a aidée et pas comme quelque chose, même si ça me pourrissait la vie, qui était vraiment méchant, en vérité, ben, ça m'a permis de pouvoir remplacer cette hyperphagie par quelque chose qui était sain pour moi. Parce que je lui ai dit, moi, je veux remplacer les choses par des choses qui seront saines pour moi. Voilà, par prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, etc. Et depuis, je n'ai plus jamais de crise d'hyperphagie. Mais plus jamais de ma vie. Et j'en suis contente, j'en suis très heureuse. Ça m'a changé la vie. J'ai plus ces prises de poids, parce que j'ai plus de crise. Donc ça peut me permettre de réguler ma manière de manger. C'était compliqué à réapprendre, hein, parce que tu as des mauvaises habitudes. Mais au final, je ressentais la satiété, alors qu'avant, je ne la ressentais pas. Là, j'avais plus faim et mon cerveau ne me disait pas continuer à manger. Je me disais, wow, stop, là, t'as plus faim, stop, arrête, tu n'as pas ton assiette, c'est pas grave, tu la mangeras plus tard. Mais là, stop, on s'arrête. C'était des choses qui étaient limite inconnues au bataillon pour moi, quoi. Et ça m'a réellement changé la vie et j'étais vraiment trop heureuse. Je dis pas que l'hypnose va marcher sur tout le monde. Imaginons que vous êtes atteint d'hyperphagie et non, pour moi, ça a fonctionné. À vous de voir quelle est la meilleure manière pour vous de régler votre problème. Moi, j'ai pas de solution à apporter à part mon témoignage. Pour moi, l'hypnose, ça a été une solution. Pour les personnes qui croient en l'hypnose et qui croient au fait que ça peut marcher sur eux, eh ben, écoutez, foncez, parce que vraiment, ça peut changer les choses, c'est possible. Mais voilà, je dis pas que c'est une solution miracle. Moi, ça a marché, ça a été un chamboulement, parce que très clairement, j'ai réappris à tout faire. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, bah, comment ça se passe? Bah, aujourd'hui, franchement, je suis différente. Je suis différente, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ça, c'est le plus important, je pense, c'est être bien dans sa tête. Et puis surtout, bah, j'ai réappris à manger, j'ai réappris à avoir une alimentation saine, à avoir un sentiment, comment dire, à être sereine avec moi-même. Et voilà, et ça a vraiment beaucoup changé ma vie, voilà. Je sais pas si c'est français de dire ça, mais ça a vraiment changé ma vie. Bon, bah, il est temps pour moi de vous quitter. Il est actuellement 23h et je suis très fatiguée, j'aimerais aller dormir. J'espère que ce podcast vous a plu et en tout cas, moi, j'ai adoré le faire, j'ai adoré le tourner. Je me suis beaucoup livrée à vous, parce qu'il y avait des choses que même ma mère ne savait pas, donc c'est pour vous dire. N'hésitez pas si mon contenu vous plaît, que mes podcasts vous font vibrer, à me laisser une petite note sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Moi, ça me soutient et ça fait toujours plaisir. Sauf si vous mettez une étoile, ça va légèrement ne pas me faire plaisir, mais bon, ce sera la vie. Écoutez, peut-être que ce sera une révélation pour moi d'arrêter tout cela. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end ou une excellente semaine en fonction de quand est-ce que je poste ce podcast, car je n'ai pas encore mis de date. Et voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, aimez-vous, plein de love, et à la prochaine.